Radio Okapi.
Les titres de l'actualité, coup d'envoi ce mercredi à Kinshasa, de la modernisation de la maternité de Kintambo, les travaux qui dureront 2 ans seront exécutés par d'anciens délinquants d'Ikuluna, coûteront à la présidence de la République plus de 7 millions de dollars américains. CEP Congo ne travaillera plus le soir et le week-end. Cette décision perturbe le ravitaillement des stations-service. Cette entreprise s'est dit confrontée au problème de trésorerie car beaucoup de clients dont le gouvernement n'honorent pas leurs engagements financiers. Notre invité, c'est le directeur général de la Société congolaise pour l'état de droit, Maître Dominique Kambala, dénonce les propos incompatibles avec les valeurs démocratiques à l'approche des élections des sénateurs et des gouverneurs, des messages de nature à mettre en péril la paix au Kasaï central. Madame, Messieurs, bonsoir. Lancement ce mercredi à Kinshasa par le président Félix Tshisekedi Tshilombo de la modernisation de la maternité de Kintambo, dont les travaux seront exécutés par d'anciens délinquants urbains d'Ikuluna, enrôlés et formés au service national. Ces travaux qui coûteront à la présidence plus de 7 millions de dollars américains dureront 2 ans. Mais le service national s'engage à les finir en 18 mois. Babel Mpongo Masimango.
C'est la joie pour le personnel de cet hôpital. Il a exprimé par des ovations qui ont ponctué cette cérémonie. Satisfaction également de sa directrice, Dr Brigitte Toupela. Elle relève ici l'importance de ses travaux.
Conçue avec une capacité de 250 lits, la maternité de Kintambo fonctionne à ses jours avec 110 lits montés. La modernisation de ces bâtiments va offrir à la mère les meilleures conditions pour donner la vie et au nouveau-né un environnement sécurisé.
Mais en quoi consisteront ces travaux? Le général Jean-Pierre Kasungo, commandant du service national.
La construction d'un immeuble et des étages, la modernisation de l'ancien bâtiment. Le nouveau bâtiment regroupe entre autres la salle d'accouchement où 2 parturientes peuvent délivrer simultanément, les chambres d'hospitalisation. En ce qui concerne les anciens bâtiments, les renouvellements de la toiture, le réaménagement des espaces internes, la maternité verra sa capacité passer de 110 à 250 lits montés.
Ceci rentre dans le cadre du programme de la maternité gratuite. Les ouvrages seront exécutés par des éléments du service national, anciens délinquants urbains d'Ikuluna, spécialisé actuellement dans différents secteurs dans la construction.
Bâtisseur de la nation, notre serment.
Plusieurs blessés graves admis à l'hôpital général. Le bureau administratif du territoire détruit et des centaines de sans-abri. C'est le bilan de l'ouragan qui a soufflé mardi soir pendant qu'il pleuvait sur la cité de Bassankoussou dans le sud-est de la province de l'Équateur. En Mbandaka, le récit de Paul Richard Malengela.
L'administratrice du territoire de Bassankoussou, qui a livré l'information, a indiqué que mardi vers 15h locale, une pluie torrentielle s'est abattue sur la cité. Mais l'ouragan qui l'a accompagnée a plutôt causé d'énormes dégâts sur son passage, notamment 10 de personnes blessées, soit brûlées, soit fracturées, et qui sont encore admises à l'hôpital. Il y a aussi des centaines de sans-abri, a ajouté Mme Odile Mbela. À propos des dégâts matériels, notre source a parlé d'abord de la destruction du bâtiment administratif du territoire, lequel a perdu toute la toiture emportée par l'ouragan, tandis que plusieurs mobiliers et documents ont été également endommagés par la pluie. Entre-temps, 80 habitations se sont écroulées, y compris 3 églises, 3 établissements d'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que 12 écoles primaires et secondaires dont les toitures ont été abîmées. Avec ce bilan provisoire, l'AT de Bassankoussou estime que plusieurs activités socio-économiques de sa juridiction resteront encore paralysées. C'est pourquoi Odile Mbela a lancé un SOS. Elle sollicite l'appui d'urgence des autorités provinciales et nationales en faveur des sinistrés. Mbandaka pour Chamanigé, la radio Okapi.
Et au sud Kivu, les pluies diluviennes se sont abattues cette nuit sur la ville d'Uvira. Depuis quelques mois, en effet, les habitants vivent la peur au ventre. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la situation qui prévaut actuellement au port de Kalundu, où le commissaire Lacustre s'est dit incapable en ce moment de suspendre les activités de débarquement et d'embarquement. À Uvira, la correspondance de Fiston Gomayabala.
La victime était un convoyeur de camion. Il était en train de nettoyer un camion dans le port avant l'embarquement des marchandises. Il voulait aller puiser l'eau, ne sachant pas qu'il se trouvait déjà à la fin du quai de manutention. Il avait dépassé la bordure du quai avant de se retrouver dans les eaux profondes du bassin du port de Kalundu, où il s'est noyé. Alerté sur cet incident, la RVF est intervenue en plaçant quelques flotteurs sur un côté du port pour la visibilité du quai. Sur place à notre arrivée, plus de 10 camions étaient en train d'embarquer des marchandises dans cette condition de risque. Le commissaire lacustre Mungazi Amani explique.
La situation des montées des eaux est générale. C'est tous les ports du secteur de mon ressort qui sont attaqués par les eaux, mais on se débrouille pour ne pas arrêter les activités. Si ça continue, on va déclarer auprès des autorités compétentes. La décision de fermeture n'émane pas de ma compétence. Malgré la montée des niveaux d'eau, ils ont aussi opté le système de déchargement camion-bateau et bateau-camion.
Rappelons qu'il y a un mois, le projet de facilitation PFCRGL avait annoncé avec pompe le démarrage des travaux de réhabilitation de ce deuxième port international de la RDC. Si rien n'est fait dans l'urgence, les précipitations pluviométriques actuelles risquent de porter un coup dur sur les activités à Kalundu, qui n'a pas de station météorologique et de routes d'accès. Douvira Fistongo Mamayabala, Radio Kapi.
Économie à présent. La société d'entreposage des produits pétroliers décide de ne plus travailler le soir et le week-end. Cette décision perturbe le ravitaillement des stations-service. La CEP s'est dit actuellement confrontée au problème des trésoreries car plusieurs clients, dont le gouvernement congolais, n'honorent pas leurs engagements financiers. Le ministre des hydrocarbures assure que tout est rentré dans l'ordre et que CEP a donné des garanties pour la reprise d'ici 24 voire 48 heures. Didier Boudimbou est au micro de Sitabashi Zinabizana.
Il y a un travail qui a commencé pour pouvoir régler ce manque à gagner. Et je pense que dans les jours ou semaines à venir, on pourra régler ce problème parce qu'il n'y a même pas 2-3 mois, il y avait une grande partie qui avait été réglée, 123 millions pour toutes les sociétés. Et je pense que CEP, dans cette tranche, avait perçu près de 10 millions de dollars. Et là, nous allons continuer. Mais entre-temps, pour pouvoir soutenir CEP et permettre à CEP de faire son travail, qui est de pouvoir approvisionner les stations, et parce que là, ils travaillent plus de nuit ni le week-end, mais nous avons trouvé quand même, nous avons pu avancer de l'argent à CEP, et je pense qu'ils ont déjà reçu ça aujourd'hui, parce que ça a été signé depuis hier par le ministère de l'économie, à hauteur pratiquement de 2 millions. Il y aura un autre complément. Et avec ça, ça va permettre à CEP de pouvoir reprendre le travail et de pouvoir servir, que ce soit de nuit ou même le week-end. Donc logiquement, la situation va revenir à la normale d'ici 24 ou 48 heures. À ce jour, il n'y a pas de crise de stock de carburant, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de pénurie. Le problème était logistique et je pense qu'il est réglé.
On en vient maintenant à l'actualité politique. Vital Kamerhe s'est dit déterminé à faire de l'Assemblée nationale le vrai temple du débat démocratique et du contrôle rigoureux de la gestion publique. Lors des primaires organisées hier soir au Palais du Peuple ici à Kinshasa, ce candidat de l'Union Sacrée a été élu président de l'Assemblée nationale avec 183 voix. Il s'est dit plutôt déterminé à faire avancer le pays. Reportage de Michel Kifinangoy.
Prenant la parole en premier pour expliquer le contexte de ces primaires, le secrétaire général de l'UDPS précise que l'Union sacrée reste unie. Augustin Kabuya.
Nous étions d'accord pour que les jeux démocratiques puissent nous départager. Mais je regrette seulement que depuis que nous avions annoncé qu'il y aura des primaires, certains discours développés vont même dans le sens de remettre en cause la cohésion au sein de l'Union sacrée. Nous sommes une seule famille politique. Ce n'est pas la fin du monde.
Après son élection comme candidat unique au poste du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe salue la culture démocratique au sein de l'Union sacrée.
J'étais en réalité le choix du président de la République depuis plus de 2 mois. Et moi, j'étais convaincu qu'avec le travail inachevé, injustement, que j'avais fait au Parlement et au regard des enjeux dans la région des Grands Lacs, ma place était ici, en dehors de la primature. J'ai accepté sportivement de nous livrer à ces primaires. Ça fait rehausser la démocratie en République démocratique du Congo.
Avec cette confirmation de Vital Kamerhe comme candidat de l'Union sacrée, il ne reste qu'à publier le calendrier des élections. session en vue d'installer d'ici la semaine prochaine le bureau définitif de l'Assemblée nationale.
Partons pour le Nord Kivu où le quartier Sayo de la commune de Bungulu, situé à 10 km de la ville de Beni, est actuellement vidé de ses habitants depuis plus de mois. Ils ont fui les incursions des rebelles ougandais de l'EDF. Quelques habitants de la zone rencontrés plaident pour la sécurisation de ce quartier populaire de la ville de Beni. Explication de Marc Marofimo.
Le quartier Sayo de Beni est devenu fantôme. Les rues et avenues sont désertes. Les commerces et une dizaine d'écoles primaires locales sont fermées depuis un mois. L'un des rares habitants rencontrés sur place plaide pour la restauration de la sécurité dans les milieux.
Yambo, maman.
Yambo.
Il faut nous aider. Nous voulons rentrer chez nous. C'est la première fois que notre quartier Sayo a été attaqué. On n'a aucun responsable pour nous aider ici.
Cet habitant avait fui l'insécurité en Ituri il y a quelques années. Installé à Sayo, il dit être désespéré par l'insécurité dans ce quartier de Beni.
J'étais en Dalia avec l'insécurité. Je fui à Ofaye, puis à Sayo où je suis déplacé. Connaître Ali ces rebelles, car si on les laisse, comment nous allons vivre?
Avec au moins 20 000 habitants, le quartier Sayo est l'un des plus populaires de la ville de Beni. Il est entouré des champs d'où est ravitaillée la ville de Beni en denrées alimentaires. Cela fait un mois qu'il est devenu la cible des rebelles des EDF. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi la montée de l'insécurité à Kolwezi et ses environs dans la province du Lualaba. Des bandits armés sèment terreur et désolation dans cette ville. La société civile met les autorités devant leurs responsabilités. En réaction, le ministre provincial de l'Intérieur affirme à Radio Okapi que des dispositions sont prises pour mettre ces hors-la-loi hors d'état de nuire. Pour en parler, Grâce Amzati nous appelle de Kolwezi.
Les quartiers où l'insécurité bat son plein à Kolwezi sont des nouveaux lotissements, notamment RVA, Golf et Istem et Joli Site. Des cas de cambriolage nocturne, de meurtres et autres formes d'insécurité y sont signalés régulièrement. Ce qui pousse les jeunes à organiser des patrouilles eux-mêmes pour, disent-ils, sécuriser leur quartier, affirme la coordination provinciale de la société civile Force Vive du Lualaba. D'après son président, cette situation est causée non seulement par des civils, mais aussi par des hommes en uniforme. Félix Tambolufungo la plaide pour le renforcement des forces de l'ordre.
Nous avons toujours demandé qu'on ait beaucoup plus d'effectifs et aussi manque de logistique, parce qu'il faut quand même qu'il y ait de la logistique, des moyens de déplacement pour pouvoir intervenir à temps. On aimerait que dans chaque quartier, qu'il y ait des jeeps en permanence, surtout dans les points chauds là.
Le ministre de l'Intérieur et Sécurité du Lualaba, qui reconnaît cette situation, indique que des efforts sont fournis pour traquer ces malfrats afin d'assurer la quiétude de la population. D'où, Deoda Kapenda Wakapenda affirme qu'en l'espace d'un mois, au moins 60 présumés criminels ont été arrêtés et quelques armes et une quantité importante de chanvres récupérées. Parmi eux, des éléments en uniforme. Ils sont déférés devant la justice, précise-t-il. De Kolwezi, Grâce Amzati Masanzi, Radio Kapi.
Au Maniema, 30 tonnes de matériel aratoire pour améliorer la culture. C'est un don offert mardi après-midi par le programme d'appui au développement rural inclusif et résilient aux 30 agri multiplicateurs et 250 maraîchers. C'est le ministre provincial de l'agriculture qui a remis ce matériel à Kindu, Florence Kizalunga.
La population du Maniema, la majorité pratique l'agriculture. La vision du Padrir est que le paysan puisse quitter la pauvreté, a dit le coordonnateur provincial de cette organisation, Alphonse Mata.
Les agri-multiplicateurs pourront être beaucoup plus efficaces s'ils ont le matériel végétal qu'il faut. C'est pourquoi nous avons appuyé en semences de base et aussi le matériel de travail qu'il faut pour être efficace. Et cela permettra à ce que ces agri-multiplicateurs puissent à leur tour mettre à la disposition des paysans des semences de qualité et cela leur permettra d'améliorer leur rendement et aussi de quitter la pauvreté. Mais nous évoluons aussi lentement vers les infrastructures, donc améliorer l'accessibilité des zones rurales, améliorer aussi l'accès à certaines infrastructures de base.
De leur côté, les bénéficiaires espèrent à l'amélioration de leurs conditions de travail. Gérard Swedi.
Aujourd'hui, nous venons d'acquérir ces matériels pour nous aider à accroître la production. Auparavant, on n'avait pas de matériel, on s'est débrouillé en recherchant un matériel après notre selon la possibilité. Mais nous venons d'acquérir ces matériels, ça nous aide à remonter et aussi à accroître la production.
Signalons que ces activités entrent dans le cadre de la continuité du plan de travail et budget annuel 2023. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Nouvelles avancées dans la perspective de juger un jour les crimes commis en Gambie lorsque l'ancien dictateur Yahya Jammeh était au pouvoir entre 1994 et 2017. Ce matin, l'Assemblée nationale a voté deux lois, l'une créant un bureau du procureur spécial et l'autre un mécanisme encadrant la suite du processus judiciaire. 19 corps sans vie ont été repêchés mardi soir au large de la Tunisie, l'un des principaux points de départ pour ceux qui cherchent à traverser la Méditerranée pour joindre l'Europe. Et puis le gouvernement rwandais a déclaré hier soir que son pays est disposé maintenant à accueillir des migrants en provenance du Royaume-Uni. Bien plus, Kigali a salué la décision qui a été prise récemment par le Parlement britannique approuvant ce transfert.
L'invité.
Notre invité, c'est le directeur général de la Société congolaise pour l'état du droit. Dominique Kambala dénonce les propos incompatibles avec les valeurs démocratiques à l'approche des élections des sénateurs et des gouverneurs. Il fait remarquer que ces messages sont de nature à mettre en péril la paix au Kasaï central. Il s'entretient avec François Kadima.
Maître Dominique Kambala, bonjour.
Radio Okapi, bonjour.
Qu'est-ce qui a motivé la saisine du procureur à quelques jours des élections sénatoriales et gouvernorales au Kasaï central?
Effectivement, nous avons saisi l'office du procureur général près la cour d'appel du Kasaï central par un courrier dénonçant un certain nombre de comportements et des agissements qui sont incompatibles avec toutes les valeurs républicaines et démocratiques.
Avez-vous relevé quelques cas concrets pour lesquels les auteurs sont poursuivables?
Notre dénonciation n'est pas hasardeuse. Hélas, pour soubassement, quelques cas concrets que nous avons documentés. Nous avons transmis au procureur général des éléments probants, allant dans le sens que certains candidats sont qualifiés des personnes n'ayant pas étudié, des personnes qui ne détiennent pas de titres académiques voulus. Il y a aussi des discours et des propos qui frisent l'injure. Il y a des propos qui frisent la stigmatisation identitaire en ce que tel candidat ne serait pas originaire de la province. Il y a aussi des cas extrêmement graves qui taxeraient certains candidats d'être des marionnettes des groupes armés, des groupes rebelles et de l'opposition politique qui frisent à mettre en place un complot de déstabilisation de la province à partir de certains territoires comme Kazumba, Luiza et Dimbelenge. Ces propos sont extrêmement excessifs et dangereux. Il y a aussi des propos très graves qui touchent à la dignité des personnes humaines et que donc il y a un gros risque. Le risque, c'est de verser dans les cycles de violence. Je rappelle, la Société congolaise pour l'état de droit rappelle que la province du Kasaï central se trouve dans une période de post-conflit et que beaucoup d'efforts ont été déployés et conjugués pour promouvoir la culture du respect des droits humains et consolider la paix. Le Kasaï central n'a plus besoin de verser dans le sang, dans la violence qui a retardé toutes les opportunités de développement.
Quel risque y a si rien n'est fait?
Il y a risque de compromettre la paix chèrement acquise, le retour à la paix.
Alors y a-t-il des recommandations pour différents candidats et acteurs impliqués dans le processus?
Comme recommandation, c'est que l'impunité est incompatible avec la paix. Il faut absolument que les détenteurs attitrés de la plénitude de l'action publique puissent mesurer la gravité de la situation et que très rapidement, très vite, qu'ils puissent investiguer de sorte que tous les auteurs présumés répondent de leur responsabilité pénale. Entre-temps, les candidats devraient se garder d'instrumentaliser la jeunesse, d'instrumentaliser les chaînes des radios, les médias. Ils devraient mener une campagne en toute probité, en tout sens de responsabilité, une campagne qui privilégie les valeurs démocratiques et les valeurs républicaines, se garder de pouvoir tenter les députés par des manœuvres de corruption, tenir leur discours pour convaincre l'électorat de sorte que les députés puissent avoir un choix judicieux à effectuer, qu'ils puissent privilégier leur conscience par rapport à la situation de pauvreté extrême dans laquelle se trouvent nos populations.
Maître Dominique Kambala, nous vous disons merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, le directeur général de la Société congolaise pour l'état de droit. Maître Dominique Kambala a été interviewé à Kananga par François Kadima. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté infiniment. Merci à Jide Bilandankoumar qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale d'Alain Rungmouchinche.